La société civile du Nord Kivu dénonce le renforcement des positions du M23 depuis une semaine autour de la ville de Goma. Selon son vice-président et porte-parole, plusieurs combattants du M23 et des troupes rwandaises sont amassés vers Munigi, Kibati, Kanyarushinya, Buimba et d'autres à seulement 1 kilomètre au nord de la ville. Quelle analyse faire de cette situation? Pour en parler, nous recevons Monsieur le gouverneur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir. La réalisation me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Jean-Jacques Wondo, analyste politique et expert en questions sécuritaires. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique OFRDC ». Monsieur Wondo, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le M23 serait en train de renforcer ses positions depuis une semaine autour de la ville de Goma. C'est ce que dénonce la coordination de la société civile du Nord Kivu. Selon son vice-président et porte-parole Omar Kavota, plusieurs combattants du M23 et des troupes rwandaises sont amassés vers Munigi, Kibati, Kanyarushinya, Buimba et d'autres à seulement 1 kilomètre au nord de la ville. La société civile appelle les autorités à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour contrecarrer toute attaque du M23 contre la ville. On écoute Maître Omar Kavota au micro de Radio Okapi.
Dans le village de Rutagara et de Bisizi, il y a deux bataillons RDF qui sont entassés et nous avons des informations fiables quant à ça. Dans le quartier Bujovu, ça c'est à Goma, sur l'avenue Joligwa, non loin de l'aéroport, nous avons des informations qu'un bataillon rwandais s'est déployé en Syrie. Et également, nous avons d'autres informations qui indiquent que dans la localité de Rukoko, un groupement de Munigi, à moins de 1 kilomètre de l'aéroport de Goma, il y a une autre base d'éléments rwandais, d'éléments M23 qui s'est déplié à ce niveau. Nous avons des informations sur le recrutement à Gisenyi, à Rutayo, ça c'est du côté congolais, et il est vrai qu'il y a des préparés qui s'engagent, mais sur le terrain, le M23 est en train de préparer autre chose. Mais on doit prendre des dispositions pour prendre la réplique à cas où le M23 résolve de faire la guerre.
Voilà, notez que cette information de la société civile du Nord Kivu est confirmée par plusieurs sources indépendantes ainsi que par certains services de sécurité dans la même province. Simple rumeur, c'est la réaction du coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale de la PAI de la région des Grands Lacs aux déclarations faisant état du renforcement des positions du M23. Il a dit hier à Goma, à l'issue d'une mission des membres des 8 pays du mécanisme conjoint de vérification dans la localité de Munigi. Selon le général Godefroy Mouhessi, l'objectif ultime de leur mission était de se rendre compte des allégations sur l'avancée des troupes du M23 vers la ville de Goma et ses environs. Toutefois, le mécanisme conjoint de vérification élargi dit constater une augmentation des troupes du M23 au poste d'observation de Munigi. Le général ougandais Godefroy Mouhessi explique au micro de Patrick Maki de Virunga Business Radio.
Nous nous sommes rendus sur les lieux pour vérifier si réellement le M23 amasse ses troupes autour de Goma, mais nous n'avons constaté aucun mouvement de troupes vers Goma. Ce qui est vrai, nous avons trouvé le poste d'observation de Munigi, très renforcé en troupes, on dirait pour les combats. C'est ce qui a paniqué la population. Le M23 nous a dit qu'il est à son poste habituel, où curieusement les troupes ont augmenté en nombre. Nous avons dit au M23 de retirer ses troupes de ce poste pour que cet endroit reste comme auparavant, et il le fait. Je crois qu'ils ont fait comme une blague d'amasser les troupes à cet endroit, ou tout simplement ils se promenaient, mais ça a effrayé les gens. Ils ont compris qu'il ne sert à rien de paniquer la population, ils se retirent déjà pour que ce poste recouvre sa nature d'autrefois. Vous, journalistes, dites aux gens de se tranquilliser. La situation est sous contrôle.
La réalisation me signale que nous n'arrivons pas encore à avoir maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Le M23 serait en train de renforcer ses positions depuis une semaine dans les localités citées autour de la ville de Goma. Vous venez de suivre également la réaction du coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs, qui parle, lui, d'une simple rumeur. Monsieur le gouverneur, quelles sont les informations en votre possession?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer Maître Kavota, même s'il n'est pas encore en ligne, je sais qu'il nous suit, mais également l'expert qui a un ouvrage très intéressant sur la radioscopie de la force publique jusqu'au FRDC. Je voudrais bien me procurer de cet ouvrage parce que je travaille également sur cette question. Alors, je voudrais saluer la dénonciation qui a été faite par la société civile. Cela démontre à suffisance que les citoyens congolais sont en train de suivre au pas à pas la situation qui se passe à l'Est. Donc c'est son rôle citoyen de devoir alerter l'opinion à chaque fois qu'il y a une question qui se pose. Je pense que la société civile a sa manière de devoir rendre ses rapports, mais également les autorités ont la leur. Nous avons saisi effectivement les mécanismes conjoints de vérification, qui vient d'ailleurs de nous parler tout à l'heure, qui a confirmé deux faits. Le premier fait, c'est que effectivement, au niveau de Monigi, on a constaté un renforcement des positions des éléments du M23. Le deuxième fait, c'est que on a constaté le long de la frontière rwandaise, entre la RDC et le Rwanda, le renforcement des troupes de l'armée rwandaise du côté rwandais, sur une distance d'une dizaine de kilomètres. Et donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi seulement, en ce moment, les Rwandais sont en train de renforcer ses troupes le long de sa frontière. Et même, il a été constaté par ce mécanisme de vérification que les militaires rwandais sont en train de creuser des trous de fusiliers comme s'ils s'apprêtaient à une guerre. Mais, à l'analyse de tous les éléments, il y a trois hypothèses que nous pouvons émettre. La première, c'est que, effectivement, Kampala, aux yeux du M23, traîne. Parce que les rebelles qui traînent du CNDP ou du M23 avaient toujours l'intention, l'idée qu'à chaque fois qu'ils poussent le gouvernement, le gouvernement tremblait à la deuxième minute et que les rebelles obtenaient tout ce qu'ils cherchaient. Mais aujourd'hui, les rebelles ont constaté qu'à chaque fois qu'ils poussent le gouvernement à Kampala, il n'a pas l'habitude de céder comme c'était pas le temps passé. Et que donc, il doit faire des mouvements à l'intérieur de son territoire pour justifier que si Kampala ne bouge pas à sa faveur, eh bien quelque chose peut se produire. La deuxième hypothèse, c'est que, comme je l'avais déjà dit sur les antennes de la radio Okapi, il y a une dissension au niveau du M23 où l'aile politique et l'aile militaire ne s'attendent pas. Et à l'intérieur de l'aile militaire, il y a des dissensions entre Makenga et Bosco Ntaganda. Et que donc, ce sont les éléments de Bosco Ntaganda qui sont actifs dans ce mouvement qui s'observe. D'ailleurs, les mécanismes de vérification, lorsqu'il s'est rendu à Monigi, a trouvé sur place le commandant proche à Bosco Ntaganda qu'on appelle Innocent Kaina, celui qui était là en train de réorganiser les troupes. Mais nous avons eu des certitudes que, eh bien, ce mécanisme a rassuré que rien ne peut se faire. La troisième hypothèse, c'est que tout ce qui se passe actuellement, je crois que le Rwanda est en train de se rendre compte qu'il a commis une grosse erreur en soutenant le M23 au lieu de collaborer avec le gouvernement. Parce que depuis tout le temps où le gouvernement gérait Kibumba, Rumangabo jusqu'à Rutshuru, jamais les FDLR n'avaient traversé pour aller attaquer le Rwanda comme c'est le cas actuellement. Et maintenant qu'il a mis ces éléments là-bas qui s'appellent M23, qui sont à nombre réduit et qui sont incapables de contrôler l'espace qui va de Bunagana jusqu'à Munigi, il est tout à fait normal que quelques éléments FDLR seraient en train de s'infiltrer à travers les lignes qui séparent la RDC et le Rwanda, ce qui provoque effectivement une situation de déstabilisation dans les pays voisins, alors qu'il aurait dû prévenir ça par la collaboration qu'il entretient avec le gouvernement congolais. Donc je crois que tout ce qu'on observe, c'est de cette manière que je peux l'expliquer, et je considère que c'est des hypothèses que nous devons mettre sur la table, que nous devons examiner pour voir laquelle d'entre les trois est la plus plausible.
Alors, monsieur le gouverneur, la ville de Goma serait-elle sous la menace d'une nouvelle attaque d'après les éléments en votre possession?
D'après les éléments en ma possession, je crois que actuellement les habitants de la ville de Goma doivent se tranquilliser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois que l'on parle du Rwanda ou que une des autorités a parlé sur une chaîne internationale pour essayer un peu de menacer. Tout le monde tremble, les gens sont en dessous des lits, les gens sont en dessous des tables. Je crois que le peuple congolais doit apprendre aussi à résister devant ce genre de rumeurs et de menaces. Parce que depuis tout ce temps, on a constaté que les rebelles ont souvent utilisé les rumeurs et ces informations, les téléphones, les SMS circulent partout au point où quelqu'un qui n'a pas les deux pieds sur terre ne peut plus même passer la nuit chez lui. Donc je crois qu'il faut que la population soit calme. S'il y a une situation qui arrive, ça ne sera pas la fin du monde. De toutes les façons, le M23 a attaqué la ville de Goma. Si aujourd'hui cela arrive, pourquoi les gens considèrent que c'est la fin du monde? Donc le gouvernement congolais est en train de prendre ses dispositions. Le chef de l'État avait dit qu'il y a trois options. Il y a l'option politique, l'option militaire et l'option diplomatique. Je pense que la diplomatie est en train de faire son travail, la politique fait son travail, et j'estime que l'État-major général ne dort pas sur ses lauriers pour qu'un plan B ou un plan C soit élaboré par rapport à ce qui pourrait éventuellement arriver demain. Donc que les gens se tranquillisent, qu'ils aient confiance à leur gouvernement pour que ce qui va arriver et une riposte nécessaire à la mesure du gouvernement congolais.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Omar Kavota, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, je suis en ligne.
Voilà, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Vous avez suivi la réaction du coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale des pays de la CIRGEL, qui parle, lui, d'une simple rumeur par rapport aux allégations que vous avancez. Quelle est votre réaction?
Merci. Permettez-moi que je commence par saluer son excellence, monsieur le gouverneur de province, ainsi que notre analyste politique. J'étais en train de suivre son analyse. Et s'il faut répondre à l'affirmation du mécanisme conjoint de vérification, franchement, on ne peut plus passer par quatre chemins. C'est que la réalité actuelle autour de Goma, c'est que le M23 prépare de nouvelles hostilités qui peuvent déboucher par la reprise de la ville de Goma et même de territoires périphériques de la ville de Goma. Et je dois vous dire que la panique est grande aujourd'hui dans la ville de Goma. Et ce qui est flagrant, c'est que la présence massive des troupes rwandaises du côté du M23 et du côté de la frontière congolo-rwandaise est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui ne doit pas nous laisser tranquilles, et pour laquelle nous devons porter l'attention particulière. Non seulement l'armée rwandaise est attachée à ses frontières, mais aussi elle est déployée et c'est de manière visible dans divers endroits du territoire de la RDC. Je dois vous dire en passant que nous avons des éléments vérifiés et vérifiables. Peut-être que le mécanisme conjoint ne l'a pas vu, il faudrait des drones pour le voir. Mais nous sommes en train de soutenir Kamonigi, Akibati, Abulimba et Kanyarukinya. C'est visible, les troupes rwandaises et les troupes du M23 sont déployées de manière inhabituelle et de manière massive. Au quartier Buhaza, dans le village de Diagne, ça c'est du côté du district de Rubavu, du côté du Rwanda, les troupes du Rwanda sont réellement entassées à ces lieux et ils annoncent traverser et on ne sait pas à quelle heure du côté du Congo. Dans le village de Rutagara, dans le village de Bissizi, agroupement de Monique, là il y a deux bataillons rwandais, deux bataillons RDF. C'est vérifiable. Si le mécanisme conjoint ne sait pas le vérifier, en tout cas nous sommes désolés. Dans la localité de Rukoko, ça c'est à 1 kilomètre au moins de l'aéroport de Goma. Il y a des militaires du M23 mêlés aux militaires rwandais qui sont là, sur l'avenue Joli et Joli Bois, dans les quartiers de Bouchou. Ça, c'est du côté ça, c'est en ville de Goma, non loin de l'aéroport. Un bataillon rwandais est là. Nous avons vérifié. Bien sûr, nous, la société, nous avons la manière de vérifier. Et la manière de vérifier nos informations, c'est de le vérifier à travers la population, parce que c'est la population avec qui nous travaillons. Et aujourd'hui, il y a des mouvements qui sont observés. Les M23 apportent des cargaisons d'armes de Rumangabo, donc du côté de Rutshuru, pour Buhimba, dans les territoires de Nyiragongo, pour Kibati, dans les territoires de Nyiragongo. Il est en train de s'observer des recrutements par le M23 et comme par le Rwanda, à Gisenyi, à Rusayo, cela est vérifié et vérifiable.
Maître Kavota.
Je dois vous dire, même aujourd'hui, des personnes qui étaient non loin du cimetière Kanyamuhanga, pour ceux qui connaissent Goma. Il y a des élèves qui ont été chassés vers 10 heures par les militaires rwandais. Il y a des agricultrices, des femmes qui ont été chassées. C'est visible, ça, on ne peut pas chercher, on ne peut pas porter des lunettes pour le voir.
Maître
nous
Kavota.
Le voyons et nous le disons, nous en alertons les autorités.
Maître Kavota, vous avez suivi dans son analyse, le gouverneur Julien Paluku a émis 3 hypothèses, dont la première consiste en ce que Kampala traînerait aux yeux du M23 et qu'il s'agirait d'un simple chantage. Ce n'est qu'une hypothèse, comment vous y répondez?
Non seulement Kampala a traîné, mais aussi c'est que aujourd'hui le M23 comme le Rwanda sont en train de voir que Kampala ne leur sera pas favorable et pour essayer de contraindre à des solutions qui tentent s'inscrire dans leur logique, ils doivent reprendre les hostilités, ils peuvent reprendre la ville de Goma, ils peuvent bousculer de manière à ce que l'on revienne dans leur logique. Et leur logique, c'est leur intégration, l'intégration des hommes du M23 dans la police et dans l'armée, les contrôles politiques et militaires de la province du Nord Kivu, et l'intégration de leurs politiciens dans les pouvoirs, attaques des ministres. Donc, c'est tout ça. Alors, ils sont en train de voir aujourd'hui que apparemment on n'est pas en train de répondre à leurs exigences. C'est comme ça que ils sont en train de se faire une autre façon de vouloir démontrer leur capacité de nuisance pour que, par peur, par crainte, on leur donne ce qu'ils sont en train de revendiquer.
Merci Maître Kavota. Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique et expert en questions sécuritaires. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Jean-Jacques Wondo, quelle est votre analyse par rapport à la situation sous examen?
Oui, mon analyse est assez simple. Lorsqu'on suit les différentes interventions qui m'ont précédé, on a les avis plus ou moins divergents sur les positions du M23 ou les positions de la RDF, donc Rwanda Defense Force. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une certaine effervescence militaire qui est constatée sur le terrain. Donc sur ce point, peu importe la position exacte où les avis sont divergents, il y a une certaine effervescence militaire sur le terrain. Et là, je rejoins en partie ou la première option définie par le gouverneur qui dit que parce que Kampala traîne, donc le M23 essaie de faire du chantage. Moi je ne dirais pas le terme chantage, mais cela fait partie de la stratégie mise en place par le M23. Derrière qui nous savons que c'est le Rwanda qui applique généralement une stratégie qu'on appelle en anglais « talk and fight », c'est-à-dire se battre et « fight and talk », se battre et se parler. On se bat quand on sent qu'on est dans une situation de supériorité pour imposer un dialogue. Et lorsqu'on va dans un dialogue, on sent que les choses ne vont pas dans le sens où nous aimerions que ça puisse aller, nous revenons avec, abondissant le message ou la menace de recours à la force armée. Et ça, c'est fait partie même des théories de la stratégie. Hein. En stratégie, on dit la guerre ou le recours, la menace au recours de la force armée survient lorsqu'un conflit ou un différend atteint un niveau où les actions diplomatiques et les négociations deviennent plus difficiles et on se montre moins conciliant. Et on se retrouve aujourd'hui avec M23 qui n'a pas d'objectif clair au départ, qui au fur et à mesure des négociations change ses objectifs et à un certain moment il est en mal de positionnement et ce qui fait que le blocage actuel fait qu'il peut grandir la menace armée pour pouvoir atteindre des objectifs politiques. Et surtout que on n'oublie pas ça, il ne faut pas oublier que la guerre reste toujours ce moyen de faire la politique. Donc, ça, c'est une théorie connue. Et la guerre est un outil au service de la politique. Et pour ce cas, je pense que le M23 essaie d'appliquer cette stratégie qui permet parfois de brandir la guerre, ou la menace de la guerre, ou d'aller négocier chaque fois qu'il peut engager des résultats sur le terrain. Voilà brièvement comment expliquer la situation actuelle, la position actuelle de tous ces mouvements qu'on attend à l'est du Congo.
Jean-Jacques Wondo, il y a Teddy qui nous écrit de Bukavu, Sud Kivu, qui dit, parmi les trois options que le chef de l'État a préconisées pour le retour définitif de la paix à l'est, c'est-à-dire la diplomatie et la politique ont échoué lamentablement, et le M23 semble prendre le devant sur la troisième option, l'option militaire. Est-ce que le gouvernement s'y prépare? De votre point de vue, sentez-vous une certaine préparation du côté du gouvernement?
Personnellement, je ne le vois pas, si ce n'est qu'on a entendu des effets d'annonce. Souvenez-vous, quelques temps après la débâcle de Goma, donc la chute de Goma, il y a eu tout un remue-ménage. On a essayé un peu de réorganiser le FARDC. Ben, réorganiser, c'est un peu plus de dire. Donc, l'ancien chef d'état-major des forces terrestres qui était là a été limogé pour des motifs connus, hein, de vente d'armes. Et il a été remplacé par le général Olenga qui a fait plutôt des menaces, des effets d'annonce en menaçant que nous allons nous battre, nous allons renforcer nos positions. Et nous avions eu des informations comme quoi il y a eu quand même quelques préparatifs pour pouvoir déloger les M23 de leur position, mais par après on n'a plus rien entendu. Mais par contre, on entend qu'on va se battre, il y a un discours plutôt de communication politique qui essaie, à mon avis, de motiver le militaire, mais sur le plan pratique, on ne voit rien. Effectivement, tout analyste neutre, hein, peut se poser la question de savoir quelles sont les cartes gagnantes que le Kinshasa peut encore brandir pour reprendre la main dès lors qu'il a axé son action sur trois fronts. Il y a le front militaire, diplomatique et politique. Le front militaire qui a montré ses limites depuis plusieurs mois. Le front diplomatique, nous sommes en face d'une diplomatie qui est plutôt, à mon avis, de réaction. Ce n'est pas une diplomatie proactive qui essaie un peu de créer des alliances ou des contre-alliances. Et pourtant, avec l'annulation le 24 janvier ici de l'accord sur l'envoi de la force internationale, moi je pense que c'est le Congo c'est le gouvernement congolais ou le pouvoir qui est perdant. Parce qu'à un moment, il est dans une position conjoncturelle, hein, de force, surtout avec la chute de Goma, et c'était une victoire piégée pour le M23, parce que cette chute a entraîné un tollé général, une polarisation de la frustration ou de mécontentement contre le M23, au point que cela a contraint le M23 d'aller négocier.
Merci.
Mais sachant que la situation était chaude, qu'est-ce que le M23 a fait? Il a pris son temps, il a misé sur le temps pour calmer ses ardeurs et retourner progressivement la situation en sa faveur.
Merci.
Au départ, on était dans une configuration où c'était les états de la CI RGL pour trouver la solution. Aujourd'hui, on se retrouve avec un axe qui est élargi, qui va de Camp, qui passe par Kigali, Karefalam et...
Merci Jean-Jacques Wondo, je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Augustin Mwango depuis Kalima dans la province du Maniema. Je ne suis pas surpris de cette situation car tout le monde sait que le M23 ne s'est jamais retiré des 20 km de Goma tel que cela a été exigé par la CIRGL. Mais c'est fort regrettable que ce soit la société civile qui informe le monde sur la situation sécuritaire du Nord Kivu. Il y a des gouvernements tant provincial que central avec tous les services de sécurité.
Monsieur le gouverneur, dans votre première intervention, vous avez dit saluer l'action de la société civile qui, vous avez dit, ne faisait que jouer son rôle. Mais pourquoi on a l'impression d'un certain silence de la part des officiels qui ne s'expriment pas sur cette question? On se souvient que précédemment, avant la chute de Goma, c'était le même scénario.
Oui, merci beaucoup. Malheureusement, l'État n'a pas pour canal de communication la radio Okapi ou la presse. C'est-à-dire, quand des situations se passent en province du Nord Kivu, je transmets les situations au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre, lesquels aussi transmettent les situations à l'autorité hiérarchique. Et donc, il ne faudrait pas qu'on confonde les rôles. La société civile a un rôle citoyen de devoir à toutes les occasions qu'elle apprend quelque chose qui se passe, de passer dans les médias. Ce n'est pas les moyens qu'utilise l'État. Mais je ne dis pas que cela n'était pas connu, ça a été connu. Et effectivement, il ne nous appartient pas, en tant que responsable du pouvoir public, de devoir commencer à livrer à l'opinion des affirmations qui, une fois s'ils ne sont pas vérifiées, on va commencer à se demander si réellement nous représentons l'État et en vertu de quels principes nous avons agi ainsi. Tout ce que la société civile a évoqué, nous les avons appris. Nous ne pouvons pas considérer qu'elle a tort de devoir évoquer ce qu'elle a dit. Parce que vous vous rappelez que la partie de la frontière congolaise qui est entre Kibumba et Bunagana est gérée par les M23. Or, les M23 est une création du Rwanda. Donc, tout le monde peut s'imaginer ce qui se passe dans un territoire qui est géré par la création du Rwanda. Donc, c'est tout à fait normal que l'on s'interroge sur le nombre de gens qui s'y sont installés ou qui s'y se retrouvent actuellement. Parce que la question qui reste posée est de savoir si le Rwanda a été de ceux qui ont pris la ville de Goma ou si ce n'est pas lui qui l'a pris, on s'interroge si réellement, à la suite du retrait, toutes les troupes rwandaises sont rentrées au Rwanda. C'est une autre question. Donc je considère que, en tant que responsable de l'État au niveau provincial, je ne peux pas mettre les hypothèses comme des informations que je livre à l'opinion publique. Je ne peux pas émettre des considérations qui ont encore des éléments que je dois vérifier comme des informations vraies qui doivent être consommées par l'opinion publique. Donc il faudrait qu'on différencie la manière de communiquer de l'État de la manière de communiquer des organisations non gouvernementales parmi lesquelles la société civile. Donc c'est ça la réponse que je peux donner à M. Augustin, qui a son plein droit de dire pourquoi nous ne sommes pas passés au créneau pour devoir être les premiers à le dire.
M. le gouverneur, vous avez senti les deux positions entre le mécanisme conjoint, la position du mécanisme conjoint de vérification qui parle d'une rumeur et la société civile qui soutient que cette situation est réelle. Finalement, il y a beaucoup d'observations qui mettent un peu en doute la crédibilité de la CIRGL. Faut-il déjà douter aussi de la crédibilité du mécanisme conjoint de vérification?
Bon, le doute est permis parce que vous savez que la CIRGL avait reçu mission de veiller à ce que le M23 rentre à 20 km au nord de Goma. Cela n'a jamais été fait. C'est tout à fait normal que dans l'opinion, on commence à s'interroger sur l'efficacité de ces mécanismes, parce qu'il n'a jamais réussi à faire partie des rebelles, effectivement, de là où ils devaient se retrouver. On reconnaît que la CIRGL a réussi à sortir les rebelles de la ville de Goma, mais au moins, ce qui a été convenu à la réunion du 24 novembre 2012 n'a pas été totalement exécuté. Mais quant à ce que la CIRGL a donné comme réponse par rapport à ce qui se passe, je ne pense pas que la CIRGL soit en droit de parler simplement des rumeurs. Je crois que les éléments qu'on a observés sur le terrain sont vrais. La CIRGL a reconnu que les positions qui se trouvent au nord de Goma sont passées de position d'observation en position de combat. Pour ceux qui connaissent le langage militaire, une position d'observation a moins d'hommes, tandis qu'une position de combat a plus d'hommes avec des matériels. La CIRGL l'a reconnu et je crois que c'est par erreur qu'elle continue à dire que ce sont des rumeurs. C'est des informations qui sont vérifiées, qui sont vraies. Quant aux objectifs pour lesquels ces mouvements sont observés, c'est cela que nous devons encore creuser. Mais dire que cela est fait pour attaquer la ville de Goma, je m'abstiens de devoir donner ces affirmations-là, même si je reconnais effectivement que la société civile a raison d'évoquer toutes ces informations qui circulent autour de Goma, autour de Rutshuru, autour de Nyiragongo, sans toutefois confirmer que l'objectif est de prendre la ville de Goma comme cela est en train d'être vécu dans les opinions ou distillé un peu partout pour créer la panique, pour créer la zizanie, alors que je n'ai pas encore perçu cela en tant que gouverneur.
Merci Monsieur le gouverneur. Maître Omar Kavota, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
Assistant Sami Djakouanga de Bounia en province orientale. À mon avis, le gouvernement congolais est tombé dans ses propres pièges. La menace l'attaque ou l'évasion de la ville de Goma par les M23 et toutes les autres agitations ne sont que la résultante d'une négligence de la part du gouvernement. Ces derniers avaient légitimé la présence des éléments M23 à moins de 3 km de Goma en acceptant d'amorcer les discussions à Kampala avant d'obtenir des rebelles un retrait au-delà de 20 km de la ville de Goma selon les résolutions de la CRGL. C'était une erreur stratégique grave.
Maître Kavota, réaction.
Je pense que cet auditeur ne fait que refléter notre langage, parce que nous sommes en train de dire que la guerre se sent à la porte de Goma. Et vous vous rappelez, nous étions toujours dans cette même émission avec son excellence, monsieur le gouverneur, lorsque le M23 avait menacé de la manière qui ressemble à la façon de faire aujourd'hui. À ce temps-là, nous avions soutenu que la menace était grande et l'autorité ne nous avait pas cru. Aujourd'hui, c'est le même scénario qui s'observe. Il est vrai que le gouverneur ne veut pas reconnaître que la menace est grande, mais nous, au niveau de la population, nous sommes en train de voir qu'il y a des nuages qui attestent qu'il va bientôt pleuvoir. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'alerter les autorités pour qu'ils essaient de tirer des leçons des événements du passé. Parce que tel que nous sommes en train de voir, en tout cas, le M23 ne renforce pas ses positions gratuitement. Et d'ailleurs, je dois vous dire que parmi les populations qui ont été chassées, parce que je vous ai dit que ce matin, autour de 10 heures, il y a des femmes cultivatrices, il y a des élèves de l'Institut Heri, non loin du cimetière de Kanyamuranga, et même des agents du Temka qui ont été chassés par des militaires rwandais. Et il y a certains militaires rwandais qui leur vivaient à Kinyarwanda, qui ne veulent pas encore voir les sacs couler, mais ils vont bientôt voir les sacs couler lorsqu'ils vont reprendre la ville de Goma. Tout ça, ce sont des menaces claires, qui attestent que le M23 n'est pas en train de se renforcer gratuitement. Mais si le gouvernement ne prend pas des mesures qui s'imposent, si le gouvernement prend à la légère ces menaces et ne prend pas des dispositions maintenant pour rassurer, pour protéger la population et contrer toute éventuelle avancée du M23, naturellement, on va encore retomber dans ce qui nous est arrivé la fois passée et le gouvernement sera tombé dans son propre piège.
Maître Francis Do Joseph Bonjemba Lokombe de Kinshasa, lui, pense, comme beaucoup d'autres auditeurs, que pour lui, la voie de sortie reste la voie militaire. Maître Kavota, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Nous avons toujours soutenu, d'ailleurs, avant que le chef de l'État ne parle de l'option diplomatique, de l'option politique, nous avions toujours soutenu que la situation à l'Est, la situation au Nord Kivu, en tout cas, pour mettre fin à ces conflits, il ne faut pas rêver les options politiques ou diplomatiques. Il n'y a que la solution militaire. Et nous pensons que nos militaires ne sont pas inefficaces pour le faire. Mais c'est au niveau du sommet de l'État qu'elle traîne le pied pour prendre une décision qui s'impose, engager les troupes afin de contrer l'ennemi. Et ça, nous avons toujours considéré que c'est une manière de doroter le M23. C'est une manière de légitimer son existence et ses alliés en profitent, ce qui risque d'encourager plusieurs citoyens, plusieurs personnes à considérer qu'il faut prendre les armes pour légitimer ses droits, pour revendiquer ses droits et faire de ces faits la violence armée comme mode de revendication. Nous pensons que le gouvernement, encore une fois, nous en sommes écrit d'alarme, écrit d'alerte pour qu'on prenne des dispositions maintenant.
Et qu'entre-temps, Maître Kavota, il faudrait mettre fin au pourparlers de Kampala.
Oui, nous sommes en train de croire que ces pourparlers ont trop duré et ils ne sont pas en train de profiter aux citoyens, ils sont en train de consommer inutilement les budgets de l'État parce que c'est l'État qui est en train de payer et à la délégation gouvernementale et à la délégation du M23 la location de maisons, le manger, tout ça. Nous pensons que ça n'a rien à voir. On a déjà fini la mission. La mission était d'écouter le M23 par rapport à l'évaluation de l'accord du 23 mars 2008. Cela a été déjà fait. Nous passons qu'on doit finir avec ces pourparlers. On doit rompre avec ces pourparlers pour que le bannisse la culture de primer les criminels. Parce
Merci.
Que si les criminels du M23 sortent des Kampala gagnants, s'ils sont intégrés à la police de l'armée et dans la politique congolaise, qu'est-ce que ça va servir de leçon aux autres qui sont
Merci.
En train d'affiller et prendre les armes?
Merci, Maître Omar Kavota. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Jean-Jacques Ouondo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu. Voilà, je disais que nous allons prendre pour vous, Jean-Jacques Ouondo, cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Papi Mumbere Kaloali, de la ville de Goma, province du Nord Kivu. La crise de l'Est de la République démocratique du Congo peut être résolue à la malienne. Le M23 renforce ses positions chaque jour. Le gouvernement congolais doit réagir.
Voilà, la solution à la malienne, Jean-Jacques Ouondo, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je pense que c'est une option. Cela n'est possible que si le pouvoir congolais dispose d'une diplomatie active à même de pouvoir convaincre les alliés sur la nécessité de trouver une solution militaire à cette crise. Est-ce qu'on entend les moyens? Ça, c'est la question que vraiment je me pose. Quant à l'option militaire, c'est vrai que dans une situation idéale, ce serait la première option à épuiser ou à privilégier. Or, je l'ai dit et je le répète, aujourd'hui, le Congo ne dispose plus d'une armée capable de pouvoir contrer cette menace du M23. Donc, l'option militaire a montré ses limites, l'option diplomatique navigue à vue et le pouvoir avait trois options, il reste l'option politique. Or, aujourd'hui, l'option politique reste dans le flou. Est-ce que cette option politique, il faut considérer les négociations entre le pouvoir et le M23 comme partie de l'option politique ou la promesse de la tenue des pourparlers autour de la cohésion nationale comme une des options politiques pour résoudre cette crise? Je pense que nous nous trouvons dans une situation d'impasse qui exige qu'à ce moment, soit la communauté internationale prenne responsabilité pour revoir les choses, mais à mon avis, Kampala n'est plus, ne me paraît plus crédible pour pouvoir apporter une solution à la situation actuelle.
Jean-Jacques Ouondo, je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Vous êtes également auteur de plusieurs articles, dont le dernier qui a été publié dans le journal Le Potentiel ici à Kinshasa, qui porte le titre « La RDC otage des enjeux géostratégiques ». En ce moment, dans ce contexte, comment la RDC peut-elle redéfinir sa stratégie sécuritaire pour faire face à tous ces enjeux géostratégiques?
Ben, pour faire face à ces enjeux géostratégiques, il faut que la RDC puisse disposer d'un État. D'un État qui définit d'abord ce qu'on appelle une stratégie politique. Une stratégie politique, c'est définir tous les éléments qui sont nécessaires à la RDC pour pouvoir exister d'abord de l'intérieur, pouvoir gérer sa population et pouvoir se faire respecter dans le concert des nations. Cela exige qu'il y ait une vision politique, qu'on définisse ce qu'on appelle des doctrines diplomatiques, des doctrines militaires. Tout cela passe par une vision. Or, cette vision est absente. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment qu'il y ait l'existence de cet État qui soit responsable de mettre en place une ligne de politique, une ligne diplomatique, une ligne militaire claire, à même de doter le Congo d'une armée performante, d'une armée républicaine, d'une armée aussi nationale. Et tout cela, c'est un chantier. Je pense que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons trouver les solutions, mais c'est une question du volontarisme politique, une question de leadership politique et une question de vision politique. Et c'est le premier élément qu'il faut régler parce que nous nous trouvons aussi dans une situation assez paradoxale où on parle de la cohésion. Cette cohésion est due au fait que nous sortons d'une période électorale assez chahutée où le pouvoir a du mal à assumer la légitimité. Et tout cela appelle à ce que, qu'on puisse à un certain moment voir dans quelle mesure, ensemble, on peut trouver des solutions durables.
Merci.
Et définir le cadre correct et le cadre précis de dialogue dans le cadre de cette cohésion nationale.
Merci.
Ça peut être un premier pas, parce que il y a un auteur qui a écrit un livre qui dit « La guerre, c'est la santé de l'État ». C'est-à-dire que dès qu'une guerre est déclarée, ça entraîne une adhésion populaire. Or ici, on sent que le peuple ne suit pas cette guerre.
Merci.
Il faut se poser la question, pourquoi le peuple n'est pas derrière le gouvernement, n'est pas derrière le régime, pour pouvoir apporter, comme dans un match de football, l'on dit le 12e homme, son appui pour pouvoir régler le problème.
Voilà. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, et je signale en même temps qu'il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Monsieur le gouverneur, en ce moment, par rapport à la psychose, d'après Omar Kavota, qui règne dans la ville de Goma, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment?
Oui, d'abord, la première chose, c'est que le gouvernement ne prend pas à la légère toutes ces informations. Je voudrais apaiser Maître Omar Kavota. Nous ne prenons pas à la légère ces informations et nous ne pouvons pas ici déclarer toutes les stratégies que le gouvernement est en train de mettre en place. Je ne suis pas le porte-parole militaire des FARDC pour que je dise ce qui se passe. Je pense que l'état-major est en train de se mettre au travail pour devoir donner au peuple congolais la riposte nécessaire si le pire arrivait. Mais je pense que ce que je dois dire à la population congolaise, à celle de Goma, à celle du Nord Kivu, c'est de cesser de paniquer à chaque fois que des choses arrivent. Je répète la phrase du professeur Philippe Duhuet qui avait dit que on ne doit pas craindre le nombre de fois que la ville de Goma tombera. Même si Goma va constituer la Lorraine-Alsace, je vois que ce ne sera pas la fin du monde. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce que nous devons faire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le chef de l'État a renvoyé le budget au Parlement pour seconde lecture. Et les informations que j'ai signalent qu'on vient d'élever le budget de la défense à 250 millions de dollars. Donc je considère que s'il y a une meilleure gouvernance au niveau militaire, les 250 millions de dollars vont devoir permettre à ce que l'on puisse améliorer les conditions de vie de nos militaires, l'on puisse construire des casernes, l'on puisse élaborer des stratégies pour que notre armée soit dissuasive et que de cette manière, elle puisse faire face à toutes les menaces qui vont arriver. Je me rappelle de l'histoire entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ça s'est passé comme ça. Ce que je dois demander au peuple congolais, c'est de lire cette histoire.
Merci.
Ça finit par donner raison à l'Éthiopie à un moment de l'histoire.
Monsieur,
et donc je considère que le gouvernement congolais doit s'organiser, comme déjà il y a un budget de 250 millions de dollars alloués à la défense. Cela va servir tout au long de l'année 2013 de pouvoir peaufiner des stratégies qui permettra que le peuple congolais se trouve avec une armée qui soit capable de faire face à toutes les aventures d'où qu'elles viennent.
Maître Omar Kavota, un mot déjà en guise de conclusion.
Il est clair, alors clair comme l'eau des roches, que le Rwanda agresse à nouveau la RDC et veut refaire son aventure avec le M23. Mais il est temps que le président Joseph Kabila prouve c'est de quoi il est le père de la nation. Parce que le père, c'est lui qui défend la famille lorsqu'elle est menacée. Et sa famille du Nord Kivu est maintenant menacée. Il doit agir. Ce serait malheureux pour lui et pour toute la classe politique, à cas où le Rwanda ou le M23 réoccupent la région et la ville de Goma, nous pensons qu'on doit tout faire pour empêcher cette nouvelle aventure.
Voilà, Jean-Jacques Wondo, votre conclusion également.
Conclusion, ce que je peux dire rapidement est que les trois options qui ont été poursuivies par le gouvernement montrent clairement limite. J'ai entendu M. le gouverneur dire que le gouvernement a augmenté le budget à 250 millions de dollars. Je dois lui rappeler, et cela a été inscrit dans mon ouvrage, le budget 2011 était à 222 millions de dollars, augmenté de 28 millions de dollars un budget de l'armée, une armée qui compte plus de 150 000 personnes, en même temps on est en train de recruter des milliers de jeunes. Comment on peut dire que ce budget de 28 millions de dollars en plus va permettre à cette armée d'être contre monde?
Merci.
Je donne toujours un exemple. L'Angola a un budget de 3 milliards de dollars pour son armée.
Merci.
Voilà ce que je peux dire pour qu'on fasse le rapport.
Merci Jean-Jacques Wondo. Monsieur le gouverneur, en guise de conclusion, je vous demande de lancer un message en Swahili à la population de Goma et du Nord Kivu qui vous suit en ce moment. Brièvement, je vous en prie.
Wakaji wote wa Goma na hasa wa Nord Kivu tunawaambia wasiwe na kuwa natetemeka kila wakati wanasikia kunatokea msukosuko sijui ya M23 ama ya Rwanda kisema watu wanaenda chini ya meza ama chini ya vitanda. Nawaza tuko na serikali, na kwa sababu serikali imepata bajeti ya kuweza kusaidia jeshi, watu watie mafikiri yote kwa jeshi la Kongo.
Yes.
Na jeshi la Kongo litafanya juu iwezekanavyo ili mji wa Goma, province ya North Kivu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusiwe hata nusu ya sentimeta moja ambayo itaikaliwa na majambazi.
Merci monsieur le gouverneur Julien Paluku, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.